Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, c'est un drame humain qui se déroule aux portes de l'Europe depuis le début de la semaine. 2000 migrants au moins, piégés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, venus en Biélorussie avec l'espoir, voire la promesse de rejoindre le territoire de l'Union européenne par la Pologne ou la Lituanie, ils se retrouvent bloqués, refoulés et vivent dans des conditions inhumaines dans la forêt. Romain Lemareski, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez tout juste de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. L'Europe dénonce une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains pour déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne. C'est aussi ce que vous avez constaté ?
Eh bien oui, ces migrants sont les principales victimes du chantage exercé par Alexandre Loukachenko. Pour la plupart, ce sont des personnes qui ont déjà souffert les pires atrocités dans leur pays, des chrétiens syriens pourchassés par l'État islamique, des Kurdes irakiens persécutés, des yéménites qui fuient la guerre et bien d'autres encore. Et s'ils quittent leur pays à la quête d'une meilleure vie, ce qui les attend en Biélorussie, en Pologne ou encore en Lituanie, les replonge dans un enfer qu'ils pensaient bien laisser derrière eux. Ils franchissent la frontière entre la Biélorussie et la Pologne en passant par des zones forestières et marécageuses. Une fois arrivés sur le sol européen, une grande partie d'entre eux se font arrêter par les gardes frontières, la police ou l'armée, qui sont déployés en masse sur les 418 kilomètres de frontières qui séparent les deux pays. Et en règle générale, ces migrants sont à nouveau refoulés du côté biélorusse, où les attendent des soldats qui, à leur tour, les refoulent soit vers la Pologne, soit vers la Lituanie. Un cercle vicieux, totalement démunis. Ils boivent l'eau des marécages, l'eau de pluie, mangent des feuilles. Ces migrants sont littéralement pris au piège dans ce bras de fer entre Alexandre Loukachenko et l'Union européenne. Et ils sont nombreux à souhaiter revenir dans leur pays. Mais pour eux, il n'y a tout simplement pas de billet retour.
Il s'agit, on le voit bien, d'une véritable tragédie humaine. Mais à quoi joue le président biélorusse Loukachenko, Romain ?
Eh bien, il souhaite tout simplement exercer une pression sur l'Union européenne pour la forcer à retirer les sanctions annoncées l'année dernière suite à la répression exercée contre les manifestants biélorusses qui dénonçaient des fraudes électorales. Et depuis lundi dernier, depuis que des centaines voire des milliers de migrants sont massés aux portes de l'Europe, Alexandre Loukachenko se livre à une opération de communication. La Croix-Rouge biélorusse a par exemple distribué des vivres et du matériel aux migrants pour donner une image d'un pays qui se préoccupe des migrants, laissant là le mauvais rôle à l'Union européenne et la Pologne en particulier. C'est un jeu dangereux avec pour seule victime ces migrants coincés alors que l'hiver approche.
Merci Romain Lemareski. La conférence sur le climat, la COP26, se termine ce soir. La montagne va-t-elle accoucher d'une souris ? C'est le risque, tant les principaux pollueurs comme la Chine ou les États-Unis peinent à mettre fin à leur dépendance au pétrole et au charbon. Mais le plastique et sa lente décomposition est lui aussi un facteur du réchauffement de la planète. Depuis le mois de juillet, la Grèce a officiellement interdit l'utilisation du plastique à usage unique comme les cotons-tiges, les pailles, les touillettes ou les récipients en polystyrène. Restent les bouteilles d'eau en plastique, un vrai casse-tête pour les îles grecques notamment, qui vivent du tourisme et ne sont pas autosuffisantes en eau, comme la petite île de Nisiros dans l'archipel de Dodécanèse. Notre correspondant Joël Brunner s'y est rendu.
À proximité des côtes turques, la petite île de Nisiros se situe non loin de l'île grecque de Rhodes. Nisiros est principalement connue pour son volcan et le cratère baptisé Stéphanos, baigné d'odeur de soufre, constitue la principale attraction touristique de l'île. Sur cette île, qui compte environ 800 habitants à l'année, la jeune ONG Nisirio, pour laquelle travaille Irini Pachou, a fait du plastique, et en particulier celui des bouteilles d'eau, son cheval de bataille.
L'eau du robinet n'étant pas potable, nous sommes contraints de consommer l'eau des bouteilles en plastique. La quantité de ce type de déchets est donc très importante. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un calcul rapide. Si nous sommes 800 personnes et que nous buvons en moyenne 2 bouteilles d'eau par jour, cela représente déjà une consommation de 1600 bouteilles quotidiennes. Si maintenant on multiplie ce nombre de bouteilles par 365 pour obtenir la consommation sur une année, le chiffre devient énorme. Voilà pourquoi il s'agit d'un très gros problème pour une petite île comme la nôtre.
Selon ce calcul, approximatif mais réaliste, les seuls habitants de Nisiros consommeraient ainsi quelque 584 000 bouteilles par an. Sans compter les centaines de touristes présents au cours de la saison estivale et qui viennent encore gonfler ce chiffre. Face à l'accumulation des déchets plastiques, L'ONG Nisirio cherche donc à sensibiliser la population en ciblant prioritairement les enfants. Et ce, avec des activités ponctuelles telles que le nettoyage de plages ou de rues, le recyclage du plastique en objets du quotidien, comme des bols ou des tasses, ou encore la création d'objets décoratifs pour la cour de récréation d'une école.
Nous considérons que nous concentrer sur les enfants est la meilleure manière d'agir, parce que c'est comme partir de zéro. Nous essayons de les sensibiliser à l'environnement dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent aider notre monde et notre île. Cela fonctionne mieux parce qu'ils apprennent vite et qu'ils se conforment à ce qu'ils apprennent. À l'école, ici, on ne leur enseigne pas tant de choses que ça à propos de l'environnement et du recyclage. Donc l'idée de notre ONG était de commencer avec les enfants parce que nous pensons que les personnes plus âgées peuvent ensuite être influencées par les plus jeunes, comme leurs petits-enfants, par exemple.
À Nisiros, la réflexion sur l'après plastique semble en tout cas amorcée. Poppy Karakonstantinou est professeur de sport et travaille l'été sur le port de Mandraki, la principale ville de la petite île. Elle se désole de la présence régulière de déchets en plastique dans la mer.
Le plastique est devenu une telle habitude dans nos vies qu'on ne peut plus s'en passer. Nous devons apprendre à faire évoluer nos modes de vie et à utiliser des bouteilles en verre ou en métal. Ce sera probablement difficile à mettre en place au début, mais cela vaut la peine d'essayer car nous en sortirons tous gagnants.
En attendant l'éventualité d'un tel changement sur l'île, d'autres habitudes du passé, comme l'incinération des déchets en plastique, se sont déjà estompées. L'ONG Nisirio participe notamment à envoyer les détritus collectés par bateau jusqu'à Athènes. Direction le recyclage.
Bien sûr, j'aime le plastique, vive le plastique.
D'autres pays européens comme la Tchéquie ou la Lituanie ont pris de l'avance, championne sur le continent de la collecte du plastique. La Lituanie, ce petit pays le plus au sud des États baltes, récupère ainsi 92% de ses bouteilles en plastique grâce à un système de consignes. Les explications de Marielle Vituro.
Plus de 3 millions de bouteilles en plastique, en verre et de canettes de métal récupérées en 5 ans. Au ministère de l'Environnement, les visites sont fréquentes pour reproduire à l'étranger la réussite lituanienne. L'une des clés est l'implantation des appareils de collecte. Ils sont toujours à proximité des supermarchés. Vilnius compte par exemple un point de collecte pour 2500 habitants. Actuellement, le Parlement étudie la possibilité d'élargir les emballages consignés. Une demande sans cesse exprimée par les usagers qui voudraient même que les pneus ou l'huile de vidange soient consignés pour limiter la pollution de la nature. Si la loi est adoptée, il sera possible de ramener ses pots de yaourt et ses bouteilles de lait et tous les contenants en verre de moins de 3 litres. Le montant de la consigne 10 centimes d'euros qui finance en partie le système devrait être également revu à la hausse. Mais collecte ne signifie pas pour autant recyclage. Une fois récupérées, les bouteilles en plastique sont compressées et revendues à l'étranger. La Lituanie ne possède pas encore d'usine pour les transformer sur place. Les revenus tirés de cette vente permettent de financer à hauteur de 30% le système de collecte. Mais là aussi, la Lituanie cherche à faire des progrès. Si elle est adoptée, la loi imposera que 30% des bouteilles soient composées de plastique recyclé d'ici 2030.
C'est toujours comme ça dans les contes pour enfants. À chaque fois, c'est le loup qui est le méchant.
Que faire du loup en Suisse? C'est un débat qui anime chasseurs, éleveurs et écologistes depuis des années. Faut-il protéger ou tuer les loups qui vivent dans les montagnes helvètes alors que leur population grandit? Jérémy Lange.
Dans le débat, souvent réduit à « êtes-vous pour ou contre le loup ?», la voix de Fabrice Monet pèse un peu plus que les autres. Déjà parce que le fondateur du collectif Defend the Wolf, défendre le loup en français, n'a pas hésité à entamer une grève de la faim pour s'opposer à la décision du canton de Vaud d'abattre 2 loups sur les flancs du Jura, mais aussi parce que ce père de famille est lui-même éleveur. Le loup, il l'a vu à plusieurs reprises, mais il assure qu'il a appris à vivre avec.
Moi, j'ai un loup qui est passé à peu près 200 mètres de ma bergerie. Et puis, il est resté. Je l'ai longuement observé avec ma fille et mon voisin. On était dehors à ce moment-là. On a vraiment pris le temps de regarder. Je suis resté jusqu'à 2h du matin aux abords de mon camion, proche du parc aussi. Et puis, il ne s'est rien passé. Et puis, les jours d'après non plus. En fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que nous, en tant que bergers, c'est aussi nous qui empiétons sur le domaine de la nature. C'est à nous aussi de mettre tous les moyens, de trouver des solutions et puis pas forcément attendre de trouver un chien de protection qui soit subventionné par l'État.
Ce que reproche l'éleveur aux autorités locales, c'est d'avoir autorisé l'abattage de deux loups adultes de la meute qui s'est installée sur les hauteurs du Jura vaudois. Fabrice Monet estime que la mesure est disproportionnée. Selon lui, beaucoup d'éleveurs n'ont en effet pas pris les mesures qui s'imposent pour se prémunir des attaques.
Je sais qu'il y avait déjà une attaque en 2017 chez un éleveur qui a été reconduite en 2018 exactement au même endroit sans que des travaux de rénovation ou de nouvelles clôtures soient posés. Puis on s'aperçoit vraiment, on crie au loup, puis on va montrer juste un petit veau, on va montrer une carcasse dans les journaux pour pouvoir dire voilà, il faut vraiment flinguer le loup à tout va. Par contre, on montrera jamais ces clôtures qui sont pas faites dans les normes. Et c'est ça que je dénonce aussi au jour d'aujourd'hui, c'est que, c'est comme je disais avant, on laisse la maison ouverte, puis après on crie au voleur, quoi.
Si la mère de Fabrice Monet a décidé de continuer sa grève de la faim, autant par amour du loup que par amour pour son fils, lui a dû y mettre un terme pour le moment. À la place, avec d'autres militants, il a décidé de parcourir la forêt pour empêcher que les autorités puissent abattre les loups ciblés.
Je suis actif depuis maintenant plus de 15 jours à peu près sur le terrain, de jour comme de nuit, et puis on fait de l'effarouchement. Le but, c'est de pouvoir se mettre entre les gardes-faunes et les loups, de manière à éviter que les tirs se produisent. Voilà, il y a d'autres alternatives. Et puis maintenant, je pense que nos chers élus et élus, il faut maintenant qu'ils se réveillent et puis qu'ils arrêtent avec ces tirs systématiques. De toute façon, l'histoire fait que se répéter. Et on voit très bien que les tirs, ça sert à rien. Donc, il va falloir trouver d'autres alternatives, comme par exemple, pourquoi pas mettre un collier sur l'alpha, de manière à suivre, et puis pourquoi pas prévenir ces futures attaques. Ça marche dans certains pays. Certes, c'est un certain budget, mais on voit que ça fait ses preuves aussi.
L'an passé, les Suisses ont refusé de valider la nouvelle loi sur la chasse qui aurait permis de faciliter l'abattage du loup. Mais le gouvernement a tout de même allégé cette année les conditions requises pour pouvoir le tuer. Un loup qui avait attaqué une dizaine de moutons cet été a ainsi été abattu dans le canton du Valais, près de la frontière avec l'Italie.
En Russie, dans les monts Sayan et ses villages reculés près du lac Baïkal, il y a carrément plus de loups que d'hommes. La menace est réelle, mais pour les habitants de la région, le problème est surtout économique. Car les loups attaquent les troupeaux, qui sont la principale source de subsistance dans cette région montagneuse, au climat aride où rien ne pousse. Le reportage de Jean Cassé.
Les habitants des monts Sayan le savent et préviennent toujours les visiteurs. Ici, l'homme n'est pas la seule espèce dominante. La nuit, les forêts et les steppes appartiennent aux loups. Nous sommes dans le village de Sorok. Avec 1100 habitants, c'est la capitale du peuple Soyot, l'ethnie mongole qui habite la région. Ici, on vit principalement de l'élevage, et la présence du loup est une menace constante à l'impact économique bien réel. Ludmila Nikolaevna est maire adjointe de Sorok. Elle raconte.
Nous, les Soyotes, nous avons conservé notre mode de vie traditionnel. La principale activité ici, c'est l'élevage de rennes, de yaks et de chevaux. Il y a beaucoup de loups dans la région. Ils posent un vrai risque économique. L'année dernière, très peu de veaux ont survécu. Il n'y a pas de façon efficace de se défendre contre les loups. À l'époque des kolkhozes, il y avait des spécialistes qui plaçaient des pièges, du poison. Alors la population de loups était plus ou moins sous contrôle. Mais ces 20 dernières années, ce poison a été interdit en Russie. La seule solution qui reste, c'est la chasse. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chasseurs de loups.
À l'échelle de la Russie, on estime à plus de 120 millions d'euros annuels les pertes causées par les loups aux éleveurs. Mais la chasse aux loups est un art difficile et périlleux. Sergueï Menchikov vit dans la région voisine d'Irkoutsk. Comme beaucoup d'hommes là-bas, il est à la fois chasseur, fourreur et guide touristique pour les amateurs de loisirs extrêmes. Les monts Sayan sont son terrain de chasse. Nous faisons sa connaissance non loin de là, sur l'île d'Olkhon, au milieu du lac Baïkal. Pendant qu'à la table d'à côté, un groupe de touristes festoie, il nous raconte la difficulté de s'attaquer au loup, un prédateur rusé et dangereux.
Un loup seul ne s'attaquera jamais à un humain, mais une meute de 6-8 loups, elle peut s'attaquer à n'importe quoi, des yaks, des chevaux ou des hommes. Le sommet de la chaîne alimentaire, ce n'est pas l'ours, c'est le loup. Le loup t'entendra toujours le premier, il te sentira toujours le premier à des kilomètres, il ne te laissera jamais t'approcher. Les loups ont une mémoire photographique. S'il passe quelque part, il reviendra en suivant ses propres traces et il retient absolument tous les détails. S'il voit la moindre brindille déplacée à côté de ses traces, il la contourne. Pour les attraper, on ne peut que les piéger.
En moyenne, un chasseur peut espérer attraper un ou deux loups par saison. Alors pour motiver les chasseurs et conserver un semblant de contrôle sur la population de loups, un système avait été mis en place à l'époque soviétique, dans lequel l'État versait des primes pour chaque loup abattu. à l'époque très efficace, ce système est aujourd'hui tombé en désuétude et ne permet plus de vivre de la chasse au loup. Sergueï Menchikov.
À l'époque soviétique, quand le pain coûtait 20 kopecks, l'État payait 150 roubles pour une louve abattue, 100 roubles pour un loup et 50 roubles pour un louveteau. C'était une bonne somme et ça motivait les gens à chasser le loup. En plus, ils recevaient pour chaque loup abattu des licences pour chasser du gibier qui était difficile à obtenir autrement. Aujourd'hui, chaque région paye différemment. Il n'y a aucune politique organisée par l'État. L'argent des primes ne vient pas de l'État fédéral, mais des régions. S'il leur reste de l'argent, ça n'intéresse personne. Tant qu'ils ne se mettront pas à bouffer les gens, personne ne s'en occupera sérieusement.
Les attaques de loups sur des humains restent aujourd'hui exceptionnelles. Mais la perte de biodiversité dans les forêts les pousse chaque année à se rapprocher toujours plus des villages, à la recherche de nouvelles proies. Il est rare dans les monts Sayan qu'un chien de garde survive à plus d'un hiver. Et à la nuit tombée, les soyotes le savent, mieux vaut ne pas sortir seul du village, et toujours en emportant un fusil.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Musique, c'est l'heure. Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Vous nous emmenez aujourd'hui sur les rives de l'Italie et même en Extrême-Orient.
Étonnant parcours que celui de la musicienne italienne Marta Del Grandi, qui vient de publier un très beau premier album, fruit de plusieurs années passées entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Après avoir étudié le jazz vocal au conservatoire de Milan et multiplié les collaborations en Italie, Marta Del Grandi a visité la Chine, puis le Népal, où elle s'est installée quelque temps pour donner des cours au conservatoire de jazz de Katmandou. De retour à la maison l'année dernière, la musicienne a écrit les 8 chansons de Until We Fossilize, en laissant ses expériences et influences traverser délicatement sa musique. Le résultat est à la fois élégant et subtilement original.
According to scientists, our neighborhoods are going to burn. Geologists have determined the reason for my broken heart. So if this really has to start, oh, will you promise me? Did you hear it? Did you feel it? The mumbling of the earth beneath. It started in the morning. It shook the village head to feet. Feels like it's happening as I speak. So will you promise me that you will come to me and swim to me across the ocean wide, swim to me and reach the other side. They won't know the reason why until we fall so wise. They will keep on wondering why until we fall so wise. It shook the village head to feet. Feels like it's happening as I speak. So will you promise me that you will come to me, swim to me?
C'était Swim to Me de Marta Del Grandi. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site ou via notre podcast. À lundi.
And reach the other side. They will know the reason why.